dernier temps d'une série de rediffusions d'été de documentaires de la Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, nous partons pour le début des années 1980 quand sort sur les écrans en France le film La Boum. Bien des réalisateurs et des réalisatrices ont tenté de rendre à l'écran ce qu'étaient les affres de l'adolescence. C'est le cas pour ce film de La Boum, réalisé par Claude Pinoteau, et qui aura un immense succès en France, 4 300 000 spectateurs, mais également dans le reste de l'Europe, avec 15 millions de spectateurs. Cela raconte évidemment les affres d'une jeune fille, jouée par Sophie Marceau, et la première Boum, ainsi que le premier baiser. Séverine Yatar et Séverine Cassard ont souhaité prendre au sérieux ce film grand public, en recueillant les témoignages de Sébastien Lepagelec, Claude Pinoteau, Daniel Thompson, Laurent Ndiaye, Laurent Gigon, Françoise Ménidret, Frédéric Pressman et Sophie Marceau. C'est jusqu'à 10h ce matin dans la Fabrique de l'Histoire.
Ma chère Sophie, s'il te plaît, est-ce que tu voudras bien m'envoyer une photo de toi en me la dédicaçant? Je t'envoie un wagon de baisers tiré par la locomotive du bonheur sur les rails de l'amour. Si j'étais jardinière, je t'offrirais des fleurs, mais je suis écolière, alors je t'offre mon cœur. Au début, j'en recevais une dizaine, une vingtaine par jour chez moi. Et...
C'était un vrai courrier de star.
Non, pas de star.
C'était un déferlement. De... Oui, l'organisation. Mais ce qui était très touchant, c'était... Et ça, moi, j'ai découvert tout ça. Je ne me rendais pas compte que l'impact que ça peut avoir... Et tant mieux finalement que j'étais pas, je m'en rendais pas compte parce que ça aurait pu vraiment me vriller la tête complètement, quoi. Parce que c'était des lettres extraordinaires d'enfants qui s'étaient complètement identifiés, qui aimaient ce film ou qui étaient tombés amoureux du personnage de Vic ou de petites filles qui se reconnaissaient complètement là-dedans et qui effectivement de tout leur cœur s'épanchaient comme s'ils me connaissaient, comme si je pouvais être la confidente, celle qui avait survécu à tout ça, compris tout ça, qui connaissait l'amour, la vie. On avait essayé à l'époque avec Claude Pinoteau de répondre à tout ce courrier. Bon, je continue, moi, je n'écris pas des lettres à tout le courrier que je reçois, mais j'essaye d'envoyer à chaque fois un mot, une signature, de faire signe que j'ai bien reçu le courrier et qu'il est passé entre mes mains, et parce que le courrier continue, quoi. Oui, oui, tout à fait.
Et qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère? Vous êtes bien la maman de Raoul? Votre petit garçon a bien invité ma petite fille à sa surboom? J'ai l'air débile!
Eh oh, un autre ton, hein?
La Boum Génération.
À ton âge, tu ne peux pas sortir sans.
Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse.
Mais qu'est-ce qu'elle a?
13 ans.
La Boum est diffusée sur les écrans en décembre 1980 et rencontre un succès inattendu. Phénomène social? Peut-être. En tout état de cause, deux ans après sa sortie, le film comptabilise plus de 4 millions d'entrées en France et 15 millions en Europe. Les jeunes filles et les jeunes garçons qui l'ont vu à l'époque, et parfois plusieurs fois, se sont largement projetés dans le personnage de Vic, son héroïne, et de sa bande de copains, pourtant issus d'un milieu privilégié parisien. Dans ce long métrage, tout tourne autour de la première Boum et du premier baiser. Le portrait de groupe qui est dressé est réaliste. Les émois, les frissons et les changements d'humeur de Vic sonnent tout juste. L'histoire évoque ainsi les rapports d'une très jeune fille avec ses parents, perturbée par certains désaccords conjugaux, et avec son arrière-grand-mère, sa confidente. Les turbulences de l'adolescence ont inspiré, et inspirent aujourd'hui encore, nombre de cinéastes. Mais ici, Claude Pinoteau, le réalisateur, servi par la plume de Daniel Thompson, la scénariste, ont choisi de tourner une comédie sentimentale et romantique qui traite d'une adolescence insouciante.
Je suis arrivée un jour chez moi, dans l'après-midi, tous les volets étaient fermés.
Daniel Thompson.
Il y avait une musique douce et des couples enlacés qui avaient l'air de nains parce qu'ils avaient 12 ans. Et voilà, il y avait du jus d'orange et puis je sentais une atmosphère tout à fait inattendue et charmante et qui faisait peur en même temps parce que je m'attendais à un goûter d'enfant et que je me retrouvais dans une boîte de nuit. Et je me suis dit, mais il se passe un truc, il se passe quelque chose, et j'ai envie de parler de ça parce que c'est assez nouveau. Et voilà, et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai écrit un synopsis que j'ai appelé La Boum, et que j'avais destiné d'ailleurs plutôt à une aventure télévisuelle. Parce que je pensais qu'il y avait matière, c'était l'époque de Happy Days, vous savez, cette fameuse série de télévision américaine. Et je me disais, il y a une manière de traiter ça en France, et je pense que c'est une sorte de chronique qui peut comme ça durer 6 heures, 8 heures, on verra. Donc j'avais imaginé ça comme ça, et puis en fait, j'étais contactée par Alain Poiré, qui était producteur de La Gifle, et qui m'a demandé, enfin a lu ce synopsis et m'a dit, ah mais j'aimerais beaucoup qu'on transforme ça en film, est-ce que tu connais Clopinotto? Il nous a présenté. Donc voilà, on s'est tout de suite très très bien entendu et on a écrit. Alors là, en prenant ce fameux synopsis en question, où était raconté le parallélisme entre l'histoire des parents et l'histoire de cette petite fille, et puis cette obsession de la boum qui était des choses ponctuelles à travers le film par rapport à cette extraordinaire révélation pour cette petite fille de ses premiers amours.
Je trouve qu'il ne faut pas sortir à la première boum. Qu'est-ce que t'en penses?
Attends, sortir à la première boum
Sortir, tu sais ce que ça veut dire?
Bah oui, sortir ensemble, aller au cinéma.
Mais non, ça c'était ton époque. Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche.
Moi, quand ça m'était proposé...
Claude Pinotto.
D'abord, j'étais vraiment intéressé par Daniel, parce que Daniel démarrait dans ce métier et que je la connaissais. On la voyait quelques fois dans les premières, dans les cocktails. Bon. Et deuxièmement, sur un pareil sujet, je retrouvais... Vous savez, on m'accusait souvent d'être sentimental et romantique. J'écrivais des vers pour d'improbables muses quand j'avais 14 ans. Et c'est resté très frais chez moi, très très frais. Je me souviens quand je montais au quatrième étage pour rejoindre cette fille que j'admirais, bon, que j'aimais. Comme on peut aimer quand on est un petit adolescent, j'attendais que mon cœur s'arrête de battre avant de frapper à la porte. Quoi. C'était complètement... bon. Et donc ça m'intéressait de pouvoir retrouver, j'étais jamais perdu ces sentiments-là, cette fraîcheur, et de pouvoir, avec un sujet pareil, pouvoir mettre en scène des jeunes, des adolescents, et vraiment retrouver un petit peu tous mes émois adolescents.
C'est vrai que c'est assez autobiographique cette histoire-là, avec toute la liberté qu'on prend quand on écrit un scénario après, mais j'étais aux premières loges, et même pas seulement dans la loge, mais très souvent carrément sur la scène, de cette histoire-là, avec une petite fille de 12 ans, puis de 13 ans, puis de 14 ans, et qui avait en effet cette grande tendresse, parce que nous nous aimions beaucoup et nous étions très proches, donc c'était pas une famille... où il y avait un malaise, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Mais justement, dans une famille où il n'y avait pas de malaise, tout à coup, ben, il y en a quand même un. Et voilà, et quand elle explose avec ses parents, et que le père dit à la mère, mais qu'est-ce qu'elle a? Et qu'elle lui répond 13 ans. Voilà, ça se résume à ça, 13 ans. C'est très compliqué, c'est une révolution déjà du corps, de cette transformation magnifique de ces petites filles en jeunes filles, de ces émotions très fortes que ressentent les adolescents, filles ou garçons, et qu'ils ne peuvent pas imaginer chez leurs parents. Là, ça fait aussi partie de ces tabous qui touchent d'ailleurs à la vie sexuelle des parents, et qui fait qu'ils ne peuvent absolument pas imaginer qu'on peut les comprendre et qu'on peut partager ces choses. Et puis d'ailleurs, on ne doit pas non plus les partager. Tout ça est très compliqué. Alors, c'est vrai que moi, je vivais ça intensément et que ça m'a beaucoup intéressé d'arriver à le raconter dans un film et surtout d'en faire quand même une comédie.
Et vous êtes d'accord sur quoi, Claude Pinotto, avec Daniel Thompson? Ce sera une comédie, du cinéma populaire et un film sur l'adolescence?
C'est vrai, je crois qu'on ne prend pas, enfin en tout cas en ce qui concerne, de décision en se disant on va faire un film sur l'adolescence, un film sur... On ne passe pas comme ça. Je crois qu'on se raconte une histoire, elle nous amuse, On a envie vraiment de tourner ce film parce qu'il y a des scènes très amusantes. Et bon, naturellement, c'était plus tourné vers la comédie. Vous avez raison, c'était pas un drame. Bon, c'était une comédie. Parce qu'il y avait quelque chose de réjouissant dans les émotions de ces jeunes filles à l'idée de sa première boum. Bon, c'était le sujet, c'était la base même. Tout devait découler de ce sujet.
Marche pas trop vite, ils sont là. J'ai l'impression qu'il m'a regardé, t'as vu? Il m'a regardé juste le jour où j'ai mis mon sauvet.
J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invitée à cette boum, n'importe quoi.
Ils sont derrière nous. T'es sûre?
Je te le dis.
Je crois qu'il veut nous rattraper. Ralentis, ça doit avoir l'air. Ralentis, je te dis. Je ralentis davantage, je m'arrête.
Mon Dieu, faites qu'il vienne nous parler, je vous en supplie.
Hé, hey, Fix, venez là. Hé, hey, oh, attendez-nous. Ça va?
Ouais. Il est chouette pour survêtre.
Oh, moi, je trouve qu'il me fait des grosses cuisses.
Faites quelque chose samedi soir?
Pourquoi?
Je fais une boum, vous pouvez venir?
C'est à quelle heure?
De 8h à... Ouais, peut-être. Faut vous donner la réponse quand?
Oh bah ce soir, on a trop de mecs. Alors si vous venez pas, on doit...
Tu veux y aller, toi? Peut-être.
Tiens, appelle-moi ce soir, sans faute, hein.
Ok.
Parce qu'après, ça sera trop tard. Ok? Allez, salut.
Salut.
Ça y est, ça y est!
Ça va être génial!
Oh, ils sont beaux, t'as vu Raoul, son blouson?
C'est Jean-Pierre, ses yeux bleus. J'en étais sûre, super sympa.
Ah, super mignon. Qu'est-ce que t'as? Bah, qu'est-ce qu'il y a?
Oh, j'ai rien à mettre.
Parce que vous, Claude Pinoteau, vous aviez fait un film précédent. Alors, ça traitait pas d'une adolescente. En tous les cas, c'était quand même l'éveil amoureux et la question de la sexualité féminine, avec La Gifle, en fait, que vous aviez tourné avec Isabelle Adjani 6 ans auparavant.
Oui, c'était, une génération déjà un peu plus âgée, puisque Isabelle, dans le film, dans La Gifle, avait 18 ans, alors que là, bon, Sophie, elle a 13 ans dans La Boum. Il y avait un petit décalage, mais enfin, ça m'a toujours intéressé. D'ailleurs, on m'a demandé de faire un rapport, l'éducation nationale sur les jeunes de cette époque, bon, c'était me prêter beaucoup trop d'importance, mais enfin, j'ai fait un long rapport. Nous avons fait une enquête ensemble, Daniel et moi, de mon côté.
Comment vous avez fait, Claude Pinoteau, une enquête?
On rencontrait des conseillers d'éducation, on parle avec des parents, comme moi j'ai beaucoup d'amis qui avaient des enfants de cet âge-là à l'époque. Bon, moi j'avais mes enfants, mais qui étaient un peu plus jeunes. Au moment de La Boum, mes enfants devaient avoir 9 ans et 11 ans, des choses comme ça. Mais enfin, c'était pas l'âge des 13 ans, 14 ans des enfants de Daniel. Mais je me suis aperçu que les sentiments des premiers émois adolescents n'ont guère changé. Alors peut-être si, le langage, bien entendu. Peut-être qu'on était un peu plus pudique encore à mon époque, sans doute. Come on, baby, let your feet start rocking. Everybody in the joint is jumping. Don't forget your shoes and stockings. Tonight's the night we rock. Daniel Thompson, je crois que vous avez vécu aux États-Unis avant d'écrire ce scénario La Boum. Alors, est-ce que justement cette vision que vous avez des adolescents, est-ce qu'elle elle s'inspire aussi de la société un petit peu américaine? Parce que je pense aussi au cinéma américain qui traite de l'adolescence avant, hein, les années 80.
Je parlais tout à l'heure de Happy Days, donc en effet de cette série américaine qui racontait donc la vie de cette high school aux États-Unis, donc correspondant un petit peu en effet au lycée. Je pense que quoi qu'il arrive, on a toujours forcément une vision des choses qui s'élargit quand on vit dans un pays étranger, ce qui était mon cas parce que j'ai vécu pendant 10 ans aux États-Unis, que j'étais très très imprégné de la culture américaine, et que c'est vrai qu'il y a toujours eu quelque chose de beaucoup plus structuré, que ce soit dans le langage ou dans les traditions ou dans les fameux bals de fin d'année, les proms des écoles où déjà les couples se forment, où il y a déjà des noms. Going steady, c'est très difficile de traduire ça, mais ça veut dire qu'on est en fait en couple avec un garçon ou une fille. Et alors tous ces codes de langage, évidemment, ils changent à travers les années. Et cette dureté des rapports de l'adolescence et de la petite adolescence que je constate encore maintenant chez mes petits-enfants d'ailleurs, qui a été beaucoup, beaucoup, je pense, accélérée par l'histoire des textos et de l'Internet, mais qui déjà à l'époque me paraissait... extrêmement étonnante la manière dont le langage se résumait une situation où on se disait à brûle pour point je te plaque, m'a dit qu'il t'aimait, il y avait comme ça quelque chose d'incroyablement direct qui arrivait en France et qui m'a semblé en effet, comme souvent, être un courant qui avait été commencé en Amérique.
Je te dis que Pénélope les a vus ensemble.
Bouchard.
Hier soir à la main jaune.
À quel âge?
16 ans. Elle s'appelle Lydia. Elle est sublime en plus.
En plus de quoi?
Bah elle... Enfin, tu vois, c'est le genre qui...
Ah, elle couche? Ah, ça c'est embêtant. Faudrait le rendre jaloux.
C'est des trucs de ton époque, ça.
Ah. Alors dis-moi, c'est quoi la force de frappe aujourd'hui?
Sébastien Lepageolec, quels sont les films qui précèdent d'une certaine manière la boum?
Ah bah en termes de chroniques adolescentes et de films plus largement sur la jeunesse, on a déjà des films, sans remonter évidemment dans le plus lointain passé, mais dans les années 60, un certain nombre de films sur la jeunesse yéyé, des personnages d'adolescents, de jeunes, je pense notamment aux films, à plusieurs films avec Louis de Funès, hein, Le gendarme de Saint-Tropez, hein, un père qui élève sa fille seule, et puis bien sûr Les grandes vacances aussi, où on le voit avec deux adolescents. Dans les années 70, on va avoir deux films importants, La Gifle et puis À nous les petites anglaises de Michel Lang, comédie populaire aussi, hein. La Gifle comme À nous les petites anglaises sont deux énormes succès en salle et qui racontent en fait les vacances d'un groupe d'adolescents en Angleterre, enfin moins les vacances qu'un stage d'anglais, et où ils sont sans leurs parents, et on va les voir évoluer au gré de quelques stéréotypes sur les anglais, et puis d'amours adolescentes.
Il y a également Diabolomante, on peut aussi parler de Diabolomante de Diane Curis, parce que le point central de ces films, c'est la rencontre amoureuse, c'est le premier baiser.
Alors c'est l'initiation amoureuse. On le voit clairement dans À nous les petites anglaises, hein, où l'idée c'est d'embrasser des filles, etc. Quand on s'intéresse à des garçons. Et puis sur Diabolomante, moi ce qui me frappe sur Diabolomante, comme sur un autre film aussi qui a cette dimension autobiographique qui s'appelle Les Ozos de Pascal Thomas, qui est un film qui sort au début des années 70, sont des films autobiographiques et qui étaient des chroniques, mais qui étaient décalé dans le temps, c'est-à-dire qu'aussi bien Diabolomante que Les Ozos sont des films qui se passent dans les années 50-60. La Boum, c'est une chronique adolescente au présent. La Boum, c'est 1980. Si on prend le théorème d'Archimède, Mehdi Sharef, c'est 84, je crois. Donc très rapidement, la question de l'adolescence et plus largement de la jeunesse va être vue à travers le filtre de la deuxième génération d'immigrés, le filtre de la question des grands ensembles dans les années 80, jusqu'au film sur la banlieue, où on va avoir des adolescents et des jeunes, mais qui n'ont finalement jamais eu le droit à être abordés sous l'angle de la chronique sentimentale. Les histoires d'amour en banlieue, il y en a pourtant, mais on choisit pas de les représenter. On a d'emblée une vision beaucoup plus tragique, de Ma cité va craquer, à La haine ou Rail. Et c'est bien L'Esquive, par exemple, qui diffère un petit peu sur ce domaine-là, puisqu'il n'a strictement rien à voir avec La Boum, mais en tout cas, il a cette volonté de montrer une adolescence confrontée à, certes, des problèmes sociaux, mais des problèmes de la vie de tous les adolescents, psychologiques, je dirais presque des moments de déprime, d'isolement, de tristesse, quand on n'arrive pas à avoir la petite copine ou le petit copain qu'on voudrait.
J'avais envie, effectivement, de faire quelque chose qui touchait l'univers qui était le mien.
Daniel Thompson.
Parce que si vous tapez dans un milieu défavorisé, le milieu social prend forcément le pas sur le sujet. Vous ne pouvez pas traiter d'un sujet comme ça aussi léger, enfin de manière aussi légère, le sujet n'est pas léger, mais de manière légère, ou alors vous traitez ce sujet-là. Alors, je crois que même sans vraiment décortiquer ça, on est très vite tombé sur le choix d'un milieu où il se trouve que c'est Henri IV, parce que c'était le lycée qui a ouvert ses portes et que esthétiquement, c'est un bel endroit.
Bon, il faut bien de toute façon ancrer un film, quel qu'il soit, dans une réalité sociale.
Sophie Marceau.
Celui-là était ancré dans une réalité, comme vous dites, parisienne, chez des gens plutôt qui ont une bonne situation, qui évoluent dans un monde aussi un peu plus cultivé. La grand-mère est harpiste, la maman est dessinatrice de bande dessinée, enfin voilà. Je pense que franchement, le film va au-delà de ça, parce que lorsqu'il s'agit du premier baiser, qu'on soit d'une banlieue communiste ou de Paris 16e, finalement, le premier baiser, il a presque le même goût, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et heureusement que ce film a dépassé ça, parce que probablement, il n'aurait peut-être pas fait autant non plus d'entrées et sauter de génération comme il fait depuis toutes ces années.
Alors évidemment, cette histoire se passe dans un milieu social assez aisé, ce qui fait que ce problème ne s'applique pas à tout le monde.
On entend des répliques qu'on entend souvent à la maison, que nos parents ont entendues, et c'est un éternel recommencement.
Ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il y a les deux côtés. Il y a la joie de la petite fille qui s'appelle Vic. Par exemple, avec ses amis, quand elle est avec ses amis, on sent quand même qu'elle est joyeuse. Il y a aussi le côté famille. Elle a des problèmes avec sa famille et on voit très bien qu'elle le ressent, elle-même et même ses parents.
Alors avec ça, il y a une histoire d'amour avec les parents, enfin l'histoire habituelle des parents qui s'entendent pas bien, mais enfin les rôles sont même très bien interprétés car Claude Brasseur est assez merveilleux et Brigitte Fosset joue aussi merveilleusement bien.
On disait avec Daniel souvent...
Claude Pinoteau.
Que... C'est un petit peu des enfants qui se prennent pour les adultes et des adultes qui se conduisent comme des enfants. Et c'est un peu ça aussi le sujet du film. Brigitte Fosset et Claude Brasseur dans le film se conduisent un peu comme des enfants. Enfin, en tout cas, lui, il ne se conduit pas très bien. Elle prend sa revanche. Mais donc, il y avait une sorte de parallèle entre la fraîcheur des amours d'enfance et puis les adultes qui, eux, ont leurs problèmes.
L'histoire, évidemment, entre les parents est très importante parce que ce qui m'intéressait, sont pas particulièrement d'ailleurs post-68ards, ce sont des parents, bon, elle, c'est la femme qui travaille, qui a du mal, qui voudrait tout faire, enfin on est encore dans une époque, il y a 30 ans, on parlait plus de ça comme en effet de quelque chose de relativement nouveau. Mais ce qui nous a paru aussi très amusant, c'est ce décalage entre cette vie d'adulte encore extrêmement mouvementée avec justement la jeunesse quand même d'un couple qui sont des trentenaires, qui eux-mêmes font face à l'usure du couple, le fait que quand on est ensemble depuis déjà une quinzaine d'années, les tentations sont encore là, la jeunesse est encore là, la possibilité de refaire sa vie est encore là, et tous ces problèmes sont évidemment très présents dans la vie des parents et complètement, bien entendu, séparés de la vie des enfants. Et puis, tout à coup, on se retrouve face à un enfant, puisque je continue à dire que ce sont des enfants à 12 ans, qui vous regarde comme une vieille dame trop loin de ses préoccupations amoureuses de l'extrême jeunesse pour comprendre ses sensations. Mais voilà. Mais c'était pour nous le souci de raconter en comédie cet incroyable décalage entre le point de vue de la petite fille et le point de vue des parents. Et quand les parents lui annoncent qu'ils vont se séparer, peut-être divorcer, mais enfin en principe se séparer pour l'instant, et que donc elle passera peut-être un week-end chez son père, et que la seule chose qui la préoccupe, c'est que le week-end, le samedi, c'est le soir des booms, et parce que cet égoïsme magnifique de cet âge, il est là.
Écoute, Vic, papa va passer quelque temps ailleurs.
Où ça?
Chez un ami.
De toute façon, je te verrai les week-ends.
Et pourquoi?
Parce que j'ai fait une...
Parce que quelquefois, quand on s'aime depuis longtemps... C'est bien de... Enfin, ça devient une habitude, tu comprends? Alors,
vous voulez vous déshabituer?
Oui. C'est ça.
Bien, c'est que le week-end...
Quoi, le week-end?
Le samedi, c'est le soir des booms, alors. Vous allez pas divorcer, quand même?
Si vous regardez bien le film, les parents, ils en ont un peu rien à foutre, ils sont un peu perdus, c'est-à-dire qu'eux, ils sont dans leur problématique. Ce dont souffrent d'ailleurs souvent les enfants, c'est que les parents prétendent qu'ils sont là, oui, je me suis occupée de toi toute ma vie, ça, machin, mais en fait, pas du tout, ils s'occupaient de leur vie, de leurs problèmes, de leur travail, le travail des adultes, mon Dieu, qu'est-ce que c'est important. Le papa parle que de ça, il rentre tard le soir, la maman est débordée, elle est fatiguée, enfin bon. Et les enfants, finalement, ont peu de place. La chance de Vic dans la boum, c'est le médiateur, c'est-à-dire la grand-mère. Et bon, il y a tous les adolescents n'ont pas ce médiateur, n'ont pas cette tierce personne par qui les problèmes peuvent être ingérés, compris, mâchés. Et au départ, d'ailleurs, je crois que l'idée de départ, c'était ça, l'idée de la boum, c'était de raconter une relation entre une grand-mère, une arrière-grand-mère en fait, et sa petite-fille.
C'est un film de filles.
de femmes. En tous les cas, il y a trois femmes importantes dans ce film, La Boum, Daniel Thompson. Il y a Vic, il y a Brigitte Fosset, puis il y a Poupette, qui est l'arrière-grand-mère quand même, qui est aussi un sacré personnage de femme.
C'est vrai que j'avais une grand-mère que j'adorais, qui était donc l'arrière-grand-mère de mes enfants, et qui était un personnage particulièrement moderne, qui avait été une femme, justement, une femme libre dans les années 20, ce qui était alors là carrément, carrément révolutionnaire, puisqu'on en parle encore de toute cette époque des années folles, en effet, du moment où les femmes se sont libérées de ce carcan, de leur corset physiquement, de leur... Et on commençait à se couper les cheveux, à porter les pantalons, enfin tout ça qui nous paraît aujourd'hui vraiment très loin, mais bon, qui n'est pas si loin que ça finalement. Et donc moi j'avais la notion de cette révolution à travers ma grand-mère dont j'étais très proche. Et donc c'était très passionnant de traiter de cette relation-là qui est tellement différente de celle qu'on peut avoir les ados avec leurs parents. Et d'ailleurs, Vic et ses copines se confient plus à cette femme qu'à la génération des parents. Parce qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de discipline. Il y a juste comme ça une liberté et un accès beaucoup plus facile entre elles. C'était ça le personnage de Poupette pour moi.
La première fois que j'ai dîné ici, c'était en 23, 28, d'ailleurs tu t'en fous. J'étais comme toi, j'ouvrais les yeux grands comme ça.
T'étais avec qui?
Paul Poiret, tu sais qui c'est? Couturier, pacha, mécène, tiens, le fils naturel de Laurent de Médicis et d'Orson Welles. Tu vois ce que je veux dire? Le vrai libérateur de la femme, il lui a supprimé le corset.
Tu t'as enlevé le tien?
J'en ai jamais porté.
Bon, alors je m'appelle Christopher Bonnet, de UNY. Et j'ai 12 ans, je mesure 1m67.
Je m'appelle Sheila O'Connor, j'ai 14 ans, je suis née le 4 mai 66, je mesure 1m50. J'adore la danse, j'aime beaucoup le sport et la musique.
Bonjour, je m'appelle Alexandra Gounin. Je suis à l'opéra depuis d'un an. Je rentre pour ma deuxième année, j'ai fait du cheval.
Je m'appelle Alain Degel, j'ai 15 ans et demi, j'ai 16 ans en juillet. Le cinéma m'attire dans le nez parce que... J'estime que d'une part, à 15 ans,
Vous pouvez même avoir un téléphone, pas un téléphone personnel de Rémi Richemin, parce que
il a fait le soir chez lui. Moi, je cherchais un mouton à 5 pattes pour Vic, alors que beaucoup me présentaient des moutons à 4 pattes, qui étaient très bien d'ailleurs, mais je voulais un mouton à 5 pattes. On a fait des recherches nombreuses, très nombreuses, puisque... on a monté les piscines, les tennis. Même j'avais obtenu qu'on puisse faire entrer une caméra dans la cour des grands lycées avec des cartes Gaumont, de manière à ne pas se paraître suspecte. On sortait les cartes Gaumont, tenez, si ça vous intéresse, dites à vos parents de téléphoner ou venir au rendez-vous qu'on propose pour ces jeunes. Bon, on a aussi beaucoup d'amis qui nous ont dit « venez voir ma fille », etc. Bon, bien sûr, même des gens très importants, même des gens célèbres. Et bon, on cherchait. Bon. Et puis, on a entre-temps fait passer dans la presse et à la radio que nous faisions des essais au studio de Billancourt tous les samedis pendant quelques mois.
Oh, j'en meurs. Donnerais n'importe quoi pour aller à cette poule, n'importe quoi.
À cette époque, c'était pas systématique de prendre un directeur de casting sur les films. Et puis là, compte tenu qu'il y avait une recherche à faire qui n'existait pas, en tous les cas, qui n'était pas référencée dans le métier professionnel comme des acteurs qui sont des agents, donc il fallait partir avec sa caméra sous le bras et aller dans les collèges, partout, voilà. C'était très facile à l'époque parce qu'on avait le droit de rentrer dans les cours de récréation. J'ai pu rencontrer un paquet d'adolescents. Aujourd'hui, c'est plus possible. On n'a plus le droit, même d'être devant un collège, une école primaire, c'est interdit.
Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs opérations de recrutement. Il y a à la fois, vous dites, Françoise Ménineret, vous allez faire les sorties de collège, même vous entrez dans la cour. Vous convoquez aussi des gens à la Gaumont, vous mettez des petites annonces. Et puis, vous allez aussi aller à l'école pour les enfants du spectacle.
Oui. Alors, Oui, j'ai fait l'école du spectacle, évidemment, des annonces presse.
Alors, quel type d'annonces? Comment les formuler?
Très simplement, hein, c'est voilà, pour un film produit par la Gaumont, réalisé par Claude Pinoteau. Nous recherchons une jeune fille, un jeune garçon, entre tel âge, envoyez vos photos, vous présentez-vous tel jour. Voilà. On avait fait, je me souviens, au studio de Boulogne, pour les rôles des garçons, ce qu'on appelle un open call, c'est-à-dire c'était ouvert, tout le monde venait, et puis on voyait ceux qui pouvaient nous intéresser. Et après, on fait des lectures, après on fait des essais, après on fait encore d'autres essais. Donc c'est un long travail, c'est un long travail.
Je m'appelle Laurent Ndiaye, j'ai 14 ans et demi, je suis née le 30-11-65. À Suresnes. J'ai déjà joué à la Comédie Française dans Le Cid et dans Lorenzaccio, au Palais des Congrès dans Porgy and Bess, et j'ai déjà fait le Soir et Salvador.
Alors, je m'appelle Laurence Gigon, je mesure 1m63, j'ai fait 2 ans de danse classique chez Chantal Graff.
Toutes les auditions qu'on a passées, on les a passées sur le premier rôle. Donc c'était les scènes de Vic, voilà. Et puis... la troisième ou la quatrième audition, je me souviens que Claude Pinoteau m'a dit « Je peux te dire une chose, c'est que tu joueras dans le film. » Mais je ne savais pas du tout si c'était pour le premier rôle ou un autre rôle. Et puis, il s'est écoulé quand même pas mal de temps. Je me souviens plus très bien. Moi, je dirais un mois à peu près, où j'ai reçu un coup de fil de la Gaumont qui m'a dit « Vous jouez le rôle de Caroline. » Je me suis précipitée sur le scénario pour voir ce que faisait Caroline. Je n'ai pas vraiment retenu le rôle. Et voilà. Et puis je me suis aperçue que c'était celle qu'embrassait un garçon avec un appareil dentaire.
Et donc alors
ça m'a moyennement réjouie, je dois dire. Voilà.
Laurent Ndiaye, vous, dans La Boum, vous jouez donc Arnaud, qui est le jeune garçon métis, une exception un peu dans cette bande de jeunes. Donc vous arrivez sur le tournage de La Boum.
Je faisais de la danse et du chant et j'étais à l'école des enfants du spectacle, qui était une école publique, mais qui avait la particularité d'avoir la visite de beaucoup de directeurs de casting ou de directeurs de théâtre qui venaient chercher des enfants pour jouer dans des pièces ou tourner dans des films ou des pubs. Et donc Françoise Ménidret, la directrice de casting du film, est venue à l'école des enfants du spectacle. Et quand elle m'a vu, elle m'a tout de suite pris par la main en me disant « Il faut absolument que tu vois Claude Pinoteau demain. » Parce qu'elle avait déjà... elle avait du mal, je crois, à trouver un métis pour le rôle d'Arnaud.
J'ai le souvenir que c'était le printemps, il faisait très beau, c'était fin de printemps, quoi.
Frédéric Pressman.
Et donc je suis allée à un rendez-vous à la Gaumont, à Neuilly, je me rappelle. Et puis ça s'est fait, voilà, ils m'ont fait faire un petit test et j'ai été prise comme ça. C'était marrant d'ailleurs parce qu'on m'a fait répéter sur une scène qui était en fait une scène de Vic avec son amoureux, un moment où elle est allée le rejoindre au bord de la mer, là, je sais pas, voilà. Et une histoire de cabine de pêcheur et tout, où elle se met en colère contre lui, voilà. On m'a demandé de travailler là-dessus et après ils m'ont expliqué qu'ils faisaient pas répéter sur les rôles pour pas les user en fait. Moi, j'étais très peu, comment dire, j'étais là, ouais, pourquoi pas, enfin, mais j'avais vraiment pas une... ça correspondait pas, je pense, contrairement à pas mal de gens qui ont joué dans ce film. C'était pas du tout un projet pour moi, donc j'y suis allée comme ça, mais assez décontractée, quoi. Et par contre, si je me rappelle que quand je suis repartie, j'étais quand même un petit peu perturbée. Elle dit que, parce que je crois qu'ils m'ont dit assez vite que ça leur plaisait ou je sais pas quoi. Et je me rappelle en repartant, au lieu de mettre un ticket dans le truc de métro, j'ai voulu mettre ma clé de chez moi. Et là, je me suis dit, ah, quand même, je suis pas tout à fait dans mon état normal.
Et puis, comme on cherchait toujours, j'avais une amie qui était dans ces étoiles de l'Opéra de Paris, que je connaissais depuis très longtemps. Et j'ai téléphoné à Josette pour dire, tu connais Claude Bessy, demande-lui s'il est possible de visiter les classes. Et Claude Bessy nous a très aimablement présenté les classes avec une discipline. Tout le monde se levait au moment où Claude Bessy arrivait. Il y avait, on sentait, une discipline consentie. Mais évidemment, elles avaient un inconvénient, ces jeunes qui étaient ravissantes. C'est qu'elles se tenaient un peu droites, toujours très, beaucoup de classes, des attitudes très raides. Et naturellement, c'était un peu trop pour notre vie qu'on souhaitait un peu plus populaire, un peu plus simple, un peu plus quotidienne.
Je m'appelle Sophie Maupu. Je fais 1m65. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire.
Bon, tu es à quel âge ?
J'ai 13 ans.
Sophie, c'était la 42e que je voyais. Je ne l'ai pas du tout trouvée dans les collèges. Pourtant, Dieu sait si j'en ai fait beaucoup. D'abord, elle habitait Gentilly à l'époque. Et moi, j'avais commencé ce métier de casting en faisant des castings publicitaires, que je ne fais plus du tout depuis 25 ans. Et en revenant d'un collège, je suis passée rue des Petits Champs, où il y avait une agence de pub d'enfants et d'adolescents.
Je me suis rendu compte après coup que c'est pas très souvent qu'à 12 ans on cherche du travail, et moi c'était un petit peu mon cas pour gagner un peu d'argent. Donc je me suis un petit peu baladée partout chercher du travail. Évidemment j'étais trop jeune car heureusement on va dire on n'emploie pas les enfants pour travailler. Et je suis allée un petit peu partout, sur des marchés, dans des boulangeries, voilà. Mais j'essuyais des échecs à chaque fois à cause de mon jeune âge. Et puis j'ai finalement écouté les conseils de ma mère qui se moquait de moi en me disant « bah vas-y, j'ai vu une annonce d'une agence de bébés mannequins ». Et je suis allée dans cette agence qui effectivement n'engageait que des tout petits enfants. Donc ils ont trouvé que j'étais déjà un peu vieille et m'ont-ils dit « on sait jamais, pourquoi pas, les temps sont difficiles, on prend tout ce qui vient ». Et voilà, ils m'ont fait quelques photos et c'est dans cette agence-là que des mois plus tard, la casting, Françoise Minudret, est allée chercher une petite fille de 13 ans pour interpréter un rôle très important dans une future comédie qui s'appellerait « La Boum ». Et ils ont vu ma photo, ils m'ont fait venir comme beaucoup d'autres enfants. J'ai passé des essais et puis j'ai finalement obtenu le rôle de Victoire Berreton dans La Boum. Voilà.
Oh, j'en meurs, je te donnerais n'importe quoi pour essayer de boum, n'importe quoi. Ils sont derrière nous, je crois qu'ils veulent nous rattraper. Ralentis sans en avoir l'air. T'arrêtes pas, je te dis.
Ça va?
Ouais.
Vous faites quelque chose samedi soir?
Pourquoi?
Je
n'y n'audait pas, ouais, comme les autres, qu'elle était en défense. Elle était gracieuse, mais un peu sur son compte à soi. Mais elle était très juste et elle avait surtout une personnalité. Elle avait une présence.
Oh, tu peux pas savoir, j'avais le cœur dans l'estomac et l'estomac dans la bouche. On aurait dit un film. Tu sais quand les mecs flottent tout d'un coup? Oh, le ralenti, moi je déteste. Ça fait vachement cliché.
Ce que je retiens, c'est surtout cette bande d'ados qui se connaissaient pas, qui venaient d'horizons très différents, de milieux très différents, avec des parcours très différents.
Laurence Gigon.
D'abord, les scènes, c'était pas des rôles de composition, parce que c'était des booms, c'était des scènes de classe. Donc notre vie, à la limite de tous les jours, il n'y avait pas beaucoup de différence. Et voilà, ce qui était amusant, c'était quand on rigolait entre les prises, tous ensemble.
Vous jouiez une bande d'ados et vous étiez une bande d'ados.
On était une bande d'ados. D'ailleurs, on faisait des booms en dehors du film. Il y a eu quelques amours aussi qui sont nés pendant le tournage entre certains ados. Donc c'était vraiment, oui, c'était l'adolescence dans le film de l'adolescence. Oui, il y avait une mise en abîme qui était pour le coup bien réelle. Donc voilà, donc, à la limite, moi, je ne sais même pas si on avait totalement conscience qu'on était en train de tourner un film. Et évidemment, on était à 10 000 lieues d'imaginer que, voilà, que ça deviendrait un film culte à ce point.
Oui, oui, il y a eu un film dans un film, absolument. Tous les je ne sais plus combien on était. Oui, on était heureux quand on était ensemble. Quand, entre les scènes, on était encore plus heureux parce qu'on ne faisait pas ce qu'on voulait, mais chacun redevenait un peu soi. Et puis voilà, on a recréé une petite communauté à nous tous. Et puis, bon, en plus, les films ont cette particularité, c'est de vous faire croire que le monde, c'est ça, à ce moment-là. Et c'est un monde merveilleux parce que voilà, vous êtes complètement entouré, protégé. Il n'y a pas la réalité de la vie qui est, elle, plus lente. Là, tout est écrit, vous voyez, donc on n'a pas peur, on avance là-dedans librement, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés là dans une ambiance, pas de vacances, mais presque, je dirais. Très heureux d'avoir des copains et des copines. Et voilà, il y a eu un vrai film dans le film, ça c'est sûr.
Salut mes amis.
Salut.
Vous êtes ensemble?
Non, mais...
La scène de la boum devenait une vraie boum. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que notre caméra était une intruse et on les laissait déchaîner sur le rockabilly, par exemple. Bon, Il faisait des figures tout à fait étonnantes. Bon, et la caméra essayait d'évoluer. J'avais demandé à Trotti, à Séchant, chef opérateur, de faire une lumière ambiante de manière à ce qu'on puisse tourner sous tous les angles, 360 degrés. Alors, on envoyait de la lumière sur le plafond qui était blanc, ça réverbérait la lumière. Bon, et ça nous permettait de tourner n'importe comment, n'importe où. Bon, j'avais laissé un peu la bride sur le cou à Rodalec, qui était le caméraman, qui tournait, qui panoramiquait, qui allait vers un visage. Là, on a un peu improvisé, mais on les a laissés se déchaîner. On leur a laissé la liberté, là, vraiment, de s'amuser. Et effectivement, ils s'amusaient beaucoup.
Comment tu la trouves ?
Le rock, génial !
Comment tu la trouves, toi ?
Oh, j'aime pas les rousses !
Mais non, fille !
Ah ouais !
On avait un certain nombre de semaines de tournage. On a respecté notre budget, on a respecté nos plans de travail. Et ça veut dire par là qu'il y avait la discipline, une certaine rigueur. C'est le savait, j'étais assez exigeant dans le travail. Mais je pense qu'on obtenait beaucoup plus d'eux par le sourire et en blaguant un peu ou en les taquinant comme bon, que si j'avais été sévère avec eux.
Pinotto nous a très vite expliqué que le cinéma, c'est pas des vacances. Je pense que pour canaliser l'énergie de tant de gamins, il fallait qu'ils soient très précis dès le départ. Et donc, on commençait à travailler très tôt. On avait rendez-vous, je crois, à 7h du matin déjà pour commencer les scènes de classe ou les scènes de cours dans l'école. Et donc, on avait quand même l'impression de travailler, donc de faire quelque chose qui était comme l'école, avec une espèce de responsabilité, un timing. C'est-à-dire qu'on arrive à telle heure, on repart à telle heure, on a un break à telle heure pour manger. Donc non, c'était pas qu'un décor. En tout cas, pas pour moi.
Et Laurent Ndiaye, alors vous identifiez-vous à cette jeunesse, à ce moment-là, au moment du tournage, hein, durant l'été 80 ?
Pas du tout. J'étais un enfant de la banlieue, avec des parents divorcés, avec un rêve, avec une envie d'être un artiste. Donc la seule chose qui me rapprochait, qui me faisait sentir bien sur le plateau de tournage, c'est que je me sentais à ma place, parce que je faisais un travail d'artiste. Mais quand il s'agit du milieu, non, pas du tout. Pas du tout, c'était le contraire. Moi, au lycée Henri IV, j'avais jamais vu une cour aussi grande, des classes aussi grandes, et puis surtout un quartier où quand on sort du lycée Henri IV, on est... il y a le Panthéon, pas loin, donc c'est Paris. Non, c'était pas du tout mon milieu, du tout.
Et dans quelle mesure, vous, Laurent Ndiaye, ce scénario vous parle ? Je trouve que c'est quand même un film de fille avec un point de vue de jeune fille. Vous jouez un garçon, mais bon, dans cette représentation de l'adolescence, évidemment, il y a des filles et des garçons qui sont ensemble, pas ensemble, qui vivent des expériences communes. Est-ce que vous projetez dans cette histoire de Vic ?
On se projette forcément, étant donné que Vic ne pense qu'aux garçons. Donc forcément, on se dit, en tant que garçon, on a notre place quant à la drague, quant à la découverte, quant au premier baiser et tout ça.
Je trouvais tout ça un peu bébé, voilà. C'est pas que j'avais... j'étais pas énormément plus âgée. J'allais rentrer en seconde quand même. J'avais déjà eu une première histoire d'amour et je trouvais que oui, qu'il y avait un truc un peu... un peu enfantin, enfin, dans la façon de le présenter, qui faisait aussi que moi je me sentais un petit peu décalée par rapport à ça. Je pense, si je me trompe pas, je pense qu'il a eu surtout un succès avec des gens plus jeunes.
Écoutez, pour vous dire la vérité, c'est que moi je n'ai rien connu de l'adolescence, alors que j'ai fait un des films cultes de cette période-là et qui m'a probablement, d'une certaine façon, empêché de vivre mon adolescence. Donc je serais probablement la personne la moins instruite à parler de l'adolescence, et j'étais beaucoup plus précoce que dans ce film où je ne me reconnaissais pas d'un point de vue social, on va dire, mais qui, comme toutes les petites filles, savaient très bien de quoi il s'agissait quand on parlait, on se retrouve entre copains, on fait une boum. Alors moi, mes boums ne ressemblaient pas à celles du film, mais bon, ça c'est anecdotique. C'est-à-dire que ce que je retrouvais là, et c'est ce que je crois les gamins ont retrouvé dans ce film, c'est quelque chose de plus universel, qui est effectivement l'adolescence, c'est-à-dire les hormones qui commencent à changer, la volonté d'indépendance, l'amour, et peut-être même au bout de l'amour, la première fois, la sexualité. C'est l'avant-sexualité, en fait, presque. Moi, j'oserais dire l'adolescence, voilà. C'est le premier pas vers quelque chose qui va nous ouvrir comment dire, une connaissance plus profonde de soi-même et de l'autre, et de la société aussi, quoi. Donc ça, je le percevais inconsciemment, comme tous les mômes à 12, 13 ans, et puis voilà, qui commencent à cet âge-là. Donc, je crois que le personnage de Vic et moi, nous avons chacune fait un petit bout de chemin l'une vers l'autre, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui était intéressant, je pense. C'est pas qu'il y en ait une qui prenne le pouvoir sur l'autre, vous voyez. C'est qu'on fasse une espèce de mix entre la réalité et puis le monde de la boum, qui était quelque part plus édulcoré, plus amusant pour le cinéma aussi, quoi, tout simplement.
Allô ? C'est pour moi.
Vraiment, Vic, si papa veut nous appeler.
Ouais. Non, j'ai pas encore attaqué. Dis, elle est en quoi ta salopette rose? Bon, faut que je te quitte, ta service d'ordre est renforcé. Sors pas.
Je me souviens que Marie-Joseph Cueillotte, la monteuse du film, qui était avec moi habillée en cours, on invitait une classe de jeunes filles à venir voir le film. Et nous étions, nous, dans le fond, au potentiomètre. Bon, et quand le film a été terminé, je vois que toutes les jeunes filles étaient en train de se moucher, de s'essuyer les yeux, etc. Alors, au moment où ils sont passés par moi, je dis, mais excusez-moi, mademoiselle, mais pourquoi vous semblez émue, vous pleurez, quoi. Et elles m'ont regardé droit dans les yeux, elles m'ont dit, mais parce que ce film, c'est nous.
Je pense que tous les adolescents qui voyaient le film avaient qu'une envie, c'est d'avoir la même adolescence. Tout le monde avait envie ça, d'avoir des parents qui s'entendaient bien, qui étaient amoureux, d'avoir une grand-mère géniale et très drôle. C'était pas une atmosphère plombée, quoi. C'était, voilà. C'est ça qui était très joli et très réussi, je trouve, dans ce film.
C'est toujours très difficile de décrypter le succès d'un film. Je pense que c'est lié quand même à plusieurs facteurs. D'abord, il faut le reconnaître à la performance de Sophie Marceau, hein, qui a été très remarquée à l'époque. Alors même si, évidemment, ça a aussi été prétexte à beaucoup de presse autour du film, hein, puisqu'elle a été prise à travers un grand casting, qu'elle était d'une famille absolument pas rattachée au cinéma. Donc il faut imaginer chez les jeunes spectatrices le rêve, la possibilité de se refléter dans ce parcours, hein, de future actrice de cinéma. À côté de ça, donc il y a, à mon avis, dans ce phénomène d'identification, l'écriture du film, à la fois dans les dialogues, il y a une recherche de justesse dans le parler des adolescentes et des adolescents en général, où le film essaye jamais d'en faire trop, et qui fait que je pense que le film, même s'il est daté aujourd'hui, apparaît pas finalement comme appartenant à un passé totalement révolu dans l'expression des sentiments, je dirais. Et puis, il y a vraiment l'écriture du film en termes de montage, en termes de réalisation, où là, on a un plan subjectif quasiment dès le début, quand elle arrive dans la cour du collège, hein, on a plusieurs plans en caméra subjective, on nous met vraiment toujours avec elle. Le fait que les parents soient pas présents dans beaucoup de scènes où elle est soit avec sa grand-mère, soit toute seule dans son lit, etc., avec un montage qui pratique beaucoup d'ellipses, d'accélérer, et qui permet donc justement d'être dans comme un journal intime, le film, et finalement comme les séquences s'enchaînent comme les pages d'un journal intime qu'on tournerait.
By surprise, I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I came. There was something special.
Dernière, j'étais présenté la boum en Russie. Et j'étais étonné parce que je venais présenter trois films de Cocteau, dont j'étais le conseiller technique. Et l'ambassade de France m'avait mis la boum en plus, en version russe. Et j'allais présenter ces films à Kaliningrad, sur la frontière polonaise. Donc 30 ans après le tournage de la boum. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que d'abord la salle était pleine d'adolescents et pleine de jeunes filles et de jeunes gens, mais vraiment pleine, ils refusaient du monde. Et, alors que c'était un bled, à Kaliningrad, tellement loin. Et bien, 30 ans après, quand après, d'ailleurs, j'ai dîné pendant la projection, quand je suis revenu, j'ai dit, mais il y a un film après? Il me dit, non, pourquoi? Ben, tous ces gens qui attendent, ben, ils vont attendre pour les signatures. Donc il y a un consensus quelque part à travers des générations étrangères, d'Orient, d'Occident et de partout, et étrange et intéressant d'ailleurs. Le film a été vendu dans à peu près 80 pays, à peu près. Et ça a très bien marché, comme vous le savez, au Japon, ça a été un immense succès. Et ça a été un peu pareil en Italie. Et en Italie, le film a marché deux fois plus qu'en France. Donc il y a quelque chose là qui est intéressant pour des créateurs de se dire, mon Dieu, pourquoi? On l'a touché à quoi?
Light in the lobby, there's music playing.
Merci à Claude Pinoteau, Daniel Thompson, Laurent Ndiaye, Laurence Gigon, Françoise Ménidret, Frédéric Pressman et Sophie Marceau.
I feel that I know you.
Mixage Pierrick Charles.
So real, I can show you.
La Boom Génération, un documentaire de Séverine Liattard, réalisé par Séverine Cassard. You will.